rencontre avec nos évêques.
Bonjour à toutes et à tous. Monseigneur Brouvet, bonjour.
Bonjour Mathias.
Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous le sujet de la lutte contre la pédophilie et la protection des personnes vulnérables. Ça n'est pas un sujet en fait, c'est d'abord une douleur, c'est compliqué, difficile et oui, douloureux, c'est le mot qui vient spontanément. Vous, Monseigneur Brouvet, comme évêque de Tarbes-et-Lourdes, là je m'adresse à l'évêque en tant qu'il est l'apôtre d'un diocèse. Qu'est-ce que vous prenez ces derniers mois, ces dernières années, comme décision sur ce sujet ?
D'abord, vous avez raison de dire que c'est une question très douloureuse hein, et un scandale, hein, parce que ce sont des mineurs qui ont été abusés par des adultes et des adultes qui étaient... ce dont on parle là en ce moment, ce sont des prêtres, mais ça peut être aussi des éducateurs, et qui ont profité de leur situation... non seulement d'adultes, mais d'autorités spirituelles pour s'emparer du corps d'un mineur. Et disons, c'est doublement grave à cause de cela, parce qu'il y a une autorité qui est revêtue d'un sceau divin. Et c'est ça qui est d'autant plus scandaleux. C'est scandaleux pour un adulte, mais un adulte qui a une autorité revêtue d'une dimension quasi divine, eh bien, ça aggrave évidemment la question. Cela dit, moi, comme évêque, il a d'abord fallu que je traite quelques cas qui se sont posés dans le diocèse. Et donc, ça, c'est le travail avec la justice, avec le procureur. On signale le cas, et puis c'est le procureur qui enquête. Puis ensuite, une fois que le procureur, disons que la justice civile s'est prononcée, il y a une enquête canonique, c'est-à-dire faite par l'Église aussi, une double enquête qui est faite, pour savoir ce que, dans l'Église, nous allons faire de la personne qui avait une responsabilité, par exemple, comme prêtre. Mais il n'y a pas que ça. On a mis au point en place une cellule d'écoute qui est faite de deux médecins et d'un ancien magistrat. Donc le numéro de téléphone et puis l'adresse mail est sur le site du diocèse. Donc n'importe qui peut contacter cette cellule d'écoute pour pouvoir parler. Bon, ça, c'est, disons... un peu la réaction face au cas qui émerge hein, inévitablement. J'ai nommé en octobre dernier un prêtre chargé de la question de la protection des mineurs et des personnes vulnérables, parce que il me semble que on peut pas simplement être là à essayer de régler des cas qui arrivent. On se rend compte que il faut deux choses. D'abord une formation. J'ai demandé à ce prêtre d'organiser des formations pour tous ceux qui sont en responsabilité vis-à-vis des mineurs et des personnes vulnérables. Ça peut être des prêtres, ça peut être des catéchistes, ça peut être des animateurs de jeunes, ça peut être des animateurs de mouvements de jeunes. Ça peut être des éducateurs dans l'enseignement catholique. Donc là, il y a vraiment un travail à faire. C'est une formation où on va d'abord mettre des mots sur ces réalités. Déjà en parler, parce que c'est compliqué d'en parler. Le silence dont on parle souvent, c'est qu'on ne trouve pas de mots pour dire cela. Et je crois qu'il faut commencer par mettre des mots. Et puis il faut dire la loi, c'est-à-dire dire l'interdit. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait pas? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Je crois que ça c'est très important pour les éducateurs de jeunes, qu'un jour, ils aient entendu qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Et puis, parler de la juste distance éducative, réfléchir sur le rapport au corps. On ne peut pas toucher au corps de l'autre sans que ça soit anodin. Voilà. Et même si on est dans une société hyper sexualisée et très permissive de ce point de vue-là, eh bien, au fond, non. On ne peut pas toucher au corps de l'autre simplement pour s'amuser, parce qu'on se rend compte que quand on touche au corps, eh bien, on touche à tout ce qu'il y a de plus profond dans l'esprit, dans l'âme de la personne concernée. Et donc ça fait partie de la formation. Et nous allons lancer des formations avec différents acteurs, hein, des gens qui s'occupent des jeunes. Et puis on va rédiger des chartes aussi de comportement, hein, parce qu'il faut que les gens qui sont formés s'engagent aussi. Alors il faut qu'on vérifie d'abord l'idonéité des gens qui s'occupent des jeunes. Quelqu'un se propose, est-ce qu'il est clair dans sa tête ou dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, ce qui est particulier, c'est que c'est pas un diocèse comme les autres, parce qu'on a aussi le sanctuaire. Et au sanctuaire de Lourdes, il y a des gens qui s'occupent Par exemple, aux piscines, il y a des gens qui s'approchent de mineurs. Bon. Dans l'accueil Notre-Dame, ce sont des personnes handicapées, des personnes malades. Comment est-ce que les hospitaliers, les gens qui viennent s'en occuper, s'occupent, hein, et puis s'engagent à respecter aussi le corps des personnes fragiles. Et puis on va publier ces normes une fois qu'elles auront été rédigées. Donc voilà ce qui est en cours en ce moment.
On renvoie vraiment tous ceux qui nous écoutent vers le site internet du diocèse où se trouve non seulement le mail de la cellule d'écoute, mais également le numéro de téléphone et puis un certain nombre de documents et vos prises de parole sur le sujet qui ont été très fortes. Hein. On va pas les rappeler là, mais elles ont été fortes et sans ciller, sans tergiverser.
Oui, alors prise de parole personnelle, puis aussi les documents d'église qui sont à consulter et qui sont très très intéressants sur la question.
Et on a l'impression, dans le maelstrom médiatique actuel, que l'Église se réveille parce qu'elle a la pression médiatique. Est-ce qu'il y a quand même une petite histoire à décrire de la lutte contre la pédophilie? Est-ce que c'est d'aujourd'hui, c'est d'avant-hier ou d'hier? Ou bien quand même l'Église s'est mise en marche quand même ces dernières années?
Oui, alors là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de colère. Et donc, dans la colère, souvent, on a un regard qui est un peu monolithique sur la question. Disons en gros que avant l'an 2000, on parlait pas de cela. Moi, j'ai essayé de trouver des petits livrets, des petits opuscules, des petits textes qui parlaient de ça avant l'an 2000. Eh bien, bien malin, qui saura trouver, y compris dans des bibliothèques municipales, des questions sur ce sujet. Avant l'an 2000, il était très peu question d'abus sexuels, ni dans l'Église, ni dans les familles, ni dans les institutions. On n'en parlait pas. On parle d'un silence, mais ce silence, je crois qu'il existait dans notre société avant l'an 2000. Alors, on a commencé à en parler. Et puis, je crois que là, avec l'épiscopat, il y a eu quatre étapes. Moi, je suis devenu évêque dans le cours de ces années-là. Hein. Mais lorsqu'on a commencé à parler de ça en l'an 2000, on était sidérés. Hein, sidérés. Il a fallu d'abord qu'on accepte, qu'on prenne conscience que ces actes avaient eu lieu dans l'Église et commis par des prêtres. Hein. Puis ensuite, la deuxième étape, ça a été de dire il faut collaborer avec la justice civile. C'est-à-dire signaler les faits au procureur de la République et puis laisser ensuite le procureur mener son enquête. C'est-à-dire, c'est une question qui concerne la société dans son entier. On peut pas régler ça simplement dans le confessionnal ou avec une petite tape au bout des doigts en disant c'est pas bien ce que vous avez fait. Non, c'est un crime ou bien c'est un délit qui concerne la justice civile. Ça a été une deuxième étape de bien prendre conscience de cela. La troisième étape, ça a été de prendre conscience du traumatisme vécu par les victimes. C'est-à-dire entendre le point de vue des victimes. Au départ, c'était pas si évident que ça. Bon. Donc comprendre que une victime qui a été abusée, c'est un maelstrom dans sa vie et que peut-être qu'elle ne s'en remettra pas complètement. Donc la douleur, la souffrance qui est générée par ces actes, par ces abus, elle est terrible. Et ça, on n'en avait pas conscience. Il a fallu qu'on la comprenne, grâce d'ailleurs au témoignage des victimes, en écoutant les victimes. Et puis ensuite, c'est l'étape dans laquelle nous sommes, je crois, commencer à parler du relèvement, hein, de la réparation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à restaurer ce qui a été détruit? Évidemment, il y a le procès, il y a le signalement, il y a le fait que la personne soit reconnue comme victime. Bon, mais écouter les récits, prendre les récits au sérieux, parce que souvent les récits n'ont pas été pris au sérieux. Hein, même par exemple quand des faits sont prescrits. Bon, les faits qui sont prescrits par la justice civile, c'est comme ça, c'est le droit. Bon, ça n'empêche pas de prendre au sérieux la personne qui, elle, dans sa souffrance, elle ne ressent pas cette prescription. Elle dit « ça m'est arrivé ». D'autant plus, d'ailleurs, que très souvent, il y a une telle sidération vis-à-vis de ces actes que les personnes ont mis 20, 25 ans ou 30 ans à parler. Et donc, les faits sont prescrits, mais la personne, elle, souffre toujours. Et donc, comment écouter cela et comment le prendre au sérieux? Et donc là, on est dans un processus qui n'est pas seulement un processus de restauration psychologique, ça peut être aussi un processus de réparation spirituelle, parce qu'évidemment, la foi est touchée hein, lorsqu'on est abusé dans un climat ecclésial. Et alors voilà, ce sur quoi aussi on est en train de réfléchir en ce moment, comment est-ce qu'on peut contribuer, vous voyez, à cette réparation.
Vous l'avez dit vous-même, la colère, la tempête médiatique aussi, le scandale balaye tout sur son passage. Et est-ce que vous avez le sentiment que justement, il faut quand même trouver des possibilités, vous l'avez là, de dire des choses qui ne passent pas dans les médias par ces temps-là, dans ces moments-là où forcément, hein, ce qui est prégnant, c'est l'émotion, c'est la colère, c'est... Oui, on renverse la table, quoi.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont vécues. Ça peut être par des procureurs, ça peut être par des évêques, c'est-à-dire par tous ceux qui traitent entre guillemets de ces questions, qui sont évidemment pas tellement connus, hein, du grand public ou des médias. Par exemple, la question du silence. Hein, je vous disais tout à l'heure que, alors on parle du silence de l'Église, mais en fait le silence il commence au moment de l'abus, parce qu'il y a des personnes qui mettent, comme je vous le disais, 10, 20, 30 ans à se souvenir seulement du fait, pas seulement à en parler, mais à se souvenir. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont été abusés il y a 13 ans, à l'âge de 13 ans, et à l'occasion d'un événement qui n'a rien à voir avec, à 30 ans, elles vont se souvenir qu'elles ont été abusées. Hein, c'est quelque chose qui va remonter, qui avait été enfoui profondément dans la mémoire. Je constate aussi que parfois des parents savaient, mais n'ont rien dit. N'ont rien dit pourquoi ? Parce que eux aussi étaient sidérés. Quand il se passe quelque chose de dramatique dans une famille, de quelque chose de si horrible qu'on ne sait pas trop comment mettre des mots là-dessus, peut-être que les parents aussi doutent du témoignage de l'enfant. Hein. Et parfois, moi j'ai connu des parents qui me disent mais je savais, mais mon enfant m'avait dit. Et on ne l'a pas pris au sérieux. Et donc, ensuite, moi il m'est arrivé plusieurs fois de dire aux victimes mais il faut que nous prévenions la justice. Et les victimes disent non. Non, j'ai pas envie que mon nom ressorte. J'ai pas envie de revivre ce drame. J'ai pas envie d'être interrogé. J'ai pas envie que un journaliste tombe. Et moi, je me suis reconstruit. J'ai une famille. J'ai des enfants. Et j'ai pas envie que mon nom apparaisse dans des journaux parce que j'ai pas envie de détruire une seconde fois ma famille à cause de cela. Je dis pas ça, vous voyez, pour justifier le silence, parce que le silence est pas bon. Mais j'essaie d'expliquer comment il peut y avoir. Non pas une chape de plomb qui est imposée par...
Ce n'est pas un système imposé par l'Église.
Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au fond, le silence nous prend quand il y a des choses qui sont trop douloureuses à expliquer. Et alors ensuite, évidemment, il y a eu un silence aussi des évêques, tout simplement parce que on ne savait pas comment traiter. Par exemple, regardez, un prêtre qui est accusé. Bon, un prêtre qui est accusé, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut évidemment protéger deux choses. Les victimes potentielles. Il y a peut-être des victimes encore qui sont là, et donc faut retirer le prêtre de son ministère. Mais qu'est-ce qu'on fait de la présomption d'innocence ? Si les accusations sont fausses, alors on retire un prêtre de son ministère, donc tout le monde nous dit « Pourquoi vous le retirez ?»« Ah, bah parce que, voilà, on le retire, parce que, bon, personne n'est dupe, surtout à l'heure actuelle, où tout part dans les journaux très vite. » Voilà. Et donc... comment parler sans faire le procès avant l'enquête qui doit être faite par la justice civile. Tout ça est quand même assez compliqué. D'autant plus que, si vous voulez, on va dire par exemple les évêques n'ont rien fait. On est sur une ligne de crête, hein, parce qu'il y a aussi un avocat qui est... un prêtre peut avoir un avocat. Moi, j'ai déjà eu un avocat qui m'a dit « Mais vous n'avez pas... Je suis là pour défendre les intérêts du prêtre. » J'ai des avocats qui m'ont déjà contacté en me disant « J'ai l'impression que les intérêts des prêtres ne sont pas respectés. Les prêtres ne sont pas protégés par la justice. » Donc là, on est parfois au milieu, vous voyez, du guet, avec une question. Vous voyez, quand je disais « Avant l'an 2000, on n'entendait pas parler », on n'avait pas avant l'an 2000 un petit livret nous disant ce qu'il fallait faire. Il y a beaucoup de choses qu'on a découvertes au fur et à mesure, et donc on se trouve là. Je crois qu'on est la première institution vraiment à devoir traiter de cela et traiter de cela dans une ambiance très polémique, hein, avec les médias qui sont un peu à l'affût. Bon, ça n'est pas si simple. Hein. Ça ne veut pas. Si vous voulez excuser quoi que ce soit, simplement, je veux dire que la gestion des abus sexuels est une gestion qui est extrêmement complexe et pour laquelle, d'abord, on n'a pas été formé et deuxièmement, on n'a pas, si vous voulez, un processus de traitement qui est absolument évident et qui est sans faille.
Merci, Monseigneur Brouvet, pour cette parole de vérité sur ce sujet dont nous disions qu'il est douloureux, difficile et complexe. Merci beaucoup.
Merci, Mathias.
Au revoir.
Rencontre avec nos évêques.